Bonjour, j'espère que ça va, voilà, le son va aller. Je vous remercie d'assister à cette petite table ronde. En fait, c'est essentiellement une présentation du travail de Françoise Hambourg et de Jean-Baptiste Fastrey, que j'inviterai ensuite à dialoguer entre eux sur leur travail respectif. Et donc, je suis là pour en fait suivre l'invitation de Florence Butet à parler du design contemporain sur ce thème de la matière, qui est le thème donc du festival cette année. Et pour ça, il m'a semblé assez évident de parler d'abord du travail de Françoise Hambourg, puisqu'il ça fait, je dirais, une bonne dizaine d'années que son travail s'impose aujourd'hui dans le design contemporain, autant auprès de grands éditeurs que dans les revues plus avant-gardistes. Et donc on a ici une personne qui a beaucoup travaillé ce thème spécifique de la matière. Dans la mesure, vous allez le voir pourquoi, mais il m'a semblé important de voir la dimension expérimentale. C'est peut-être... Il faut que je me mette un peu plus loin, peut-être. C'est mieux comme ça, je pense. Voilà. Il faut... Il m'a semblé vraiment important de souligner ici le travail expérimental dont va vous parler François lui-même sur les techniques qu'il va développer et qui vont toujours faire en sorte d'avoir une matière que j'aurais tendance à qualifier de vivante. Quand on regarde les pièces de Françoise Hambourg, on est tout de suite frappé, on a tout de suite envie de les caresser, de comprendre en quoi elles se font faites. Il y a toujours une espèce de mystère. On se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que ces œuvres, enfin ces objets, naissent et se mettent en fait à vivre sous nos yeux. J'ai tout de suite pensé aussi que Jean-Baptiste Fastrey serait une facette totalement différente, mais tout aussi pertinente dans ce thème. Jean-Baptiste travaille maintenant depuis 5 ans à peu près, on va dire, qu'il a émergé sur la scène du design. Donc on va voir là un plus jeune designer, mais qui a déjà plusieurs objets édités et je pense une carrière assez prometteuse. Et on va voir comment lui s'inspire, en fait, travaille même d'objets. Notamment, j'ai envie de dire que ces objets naissent très souvent, enfin, l'inspiration semble naître de son rapport aux matières. On semble que les problématiques qui se développent avec le travail de Jean-Baptiste viennent de sa curiosité aussi pour développer sur tel ou tel matériau qui sont très peu usités et qui ne sont pas les matériaux auxquels on pense généralement pour faire des objets. D'une manière générale, ce que je pense essayer d'amener ici, c'était cette réflexion que le design contemporain, design même depuis très, assez longtemps, depuis plus d'un demi-siècle, notamment chez les grands maîtres, que ce soit Breuer, que ce soit Castiglione, ne naît pas forcément sur une planche à dessin. On a peut-être tendance à confondre cette idée que design, l'associer au mot dessin, alors qu'en fait, généralement, le design naît de façon souvent plus hasardeuse, presque, dans un atelier, dans une rencontre, dans une usine, dans une rencontre entre le designer et son matériau. Et c'est cette manière donc, de le traiter qui va induire, en fait, des objets. Non pas comme si vous les aviez imaginés de départ, plutôt comme si l'objet était, comment dire, comme la sculpture qui est enfouie dans le bloc de marbre. Donc c'est la matière qui induit l'objet qui était dedans. On va commencer, je pense, tout bêtement avec... non, François, c'est toi qui commence.
Ok, donc c'est... Je suis François Azambour. Je dis quoi ?
Alors, peut-être, on va commencer peut-être par dire deux mots de présentation. Allez.
Je me présente moi-même.
Vas-y, oui.
Ok. Je suis designer et enseignant à l'ENSI, qui est l'École nationale supérieure de création industrielle à Paris. Voilà. D'où sort le jeune Jean-Baptiste Fastrey. Voilà. Donc, je l'ai eu comme élève. C'était.
Une belle histoire.
Ouais. Magnifique. Que dire d'autre ?
On peut dire que peut-être tu as commencé par faire du design. Comment tu y es arrivé ?
Je raconte un peu mon histoire. Ok. Alors, comment j'ai fait du design ? C'est assez. Je vais raconter un peu chronologiquement les choses. Ce sera plus simple. Donc, au départ, je voulais être pilote d'avion. Je suis passionné par les avions, enfin en tout cas je l'étais. Et donc comme j'étais pas très bon en maths, j'ai commencé à faire des études techniques, puisqu'il s'agissait du coup d'être d'abord mécanicien pour ensuite devenir pilote d'avion. Entre deux, mon frère rentre dans l'armée, puis pour moi pilote d'avion c'était plus, j'avais 14 ans, hein, donc c'était plutôt pilote de chasse. Mon frère rentre dans l'armée et m'interdit au bout de 6 mois de rentrer dans l'armée. Donc je change d'objectif et puis donc je continue mes études parce que ma mère me dit évidemment passe ton bac d'abord. Et puis je dessinais déjà beaucoup à l'époque et je ne sais pas comment je suis tombé sur ce métier qui s'appelait à l'époque esthétique industrielle. Alors ça me correspondait bien, puisque faisant des études techniques, j'avais juste besoin de rajouter esthétique à la matière technique. Donc après, j'ai fait les Beaux-Arts, et je suis rentré aux Arts Appliqués à Paris. Voilà. Et alors le meuble dans tout ça, qui arrive assez tôt, pour payer mes études, j'ai commencé à travailler avec des architectes d'intérieur. Et j'ai dessiné comme ça un peu au kilomètre des boutiques et du mobilier à usage commercial, on pourrait dire. Et petit à petit, je me suis intéressé aux meubles plus sur une situation de recherche. Pour une autre raison, c'est que à l'époque, pour mon diplôme, moi je jouais de la musique à ce moment-là. Je jouais du saxophone et donc pour mon diplôme, j'ai simplement décidé de fabriquer un saxophone. Alors cette petite histoire, ça m'a pris 12 ans en réalité. Et du coup, j'ai équipé un atelier de perceuses, fraiseuses, tours, tout un tas de choses comme ça, en gros un atelier complet pour fabriquer des instruments de musique. Au bout de 10 ans, je me suis un petit peu, 12 ans, je me suis un peu lassé de la facture instrumentale parce qu'en fait, il n'y avait aucun débouché. Alors en deux mots, la facture instrumentale, c'est un lieu totalement pétrifié, quoi. Donc c'est très compliqué d'apporter une innovation. Et c'est assez naturellement, au fond, j'ai commencé à fabriquer des prototypes de meubles ou des essais de matériaux. Et finalement, mon atelier, encore aujourd'hui, c'est un espèce de magasin comme ça, où il y a tout un tas de choses qui cohabitent. Et finalement, c'est pour moi un espèce de creuset qui est devenu essentiel pour travailler les objets. Ça va donc du mobilier au luminaire. Voilà.
Ok. Alors peut-être tu veux commencer à présenter les premiers projets.
Oui, tout à fait. Alors c'est en vrac en fait, c'est pas très chronologique. Alors comme on a assez peu de temps, je voudrais pas monopoliser constamment la parole. Il y a quoi, 4 projets je crois ou 5. Je vais tout présenter là d'un coup. Hein.
Oui, présentons. En fait, peut-être on va dire qu'on va présenter. En fait, là, il y a je crois 5-6 projets. Oui. 5.
D'accord.
Et je pense que le plus simple, effectivement, c'est presque de les présenter comme ça, en bloc, sans... Okay. sans...
Allons-y,
et puis on reparle ensuite.
Alors,
on
bon courage, je parle. Ok. Alors ça, c'est un projet qui date de 2003 et qui parle vraiment, effectivement, de mon histoire technique. Alors, si vous voulez, alors je vais vous faire des petits cours de technologie, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop long. Mais en gros... C'est la technique qu'on appelle de la cire perdue, c'est une des plus anciennes techniques qu'on connaît concernant la reproduction de pièces. On l'utilise quand même encore aujourd'hui beaucoup pour faire la bijouterie, par exemple. Donc on fabrique un objet en cire. Cet objet en cire est ensuite coulé dans un petit bloc de plâtre, avec un trou d'évent et un trou de coulée, c'est-à-dire des petits orifices comme ça, et une fois que le plâtre est pris, on va chauffer le plâtre, enlever la cire et remplacer la cire par, vous m'entendez assez bien là, par de l'argent par exemple. Alors en 2003, donc j'ai eu une carte blanche qui a été présentée en 2004, donc du VIA, qui est la valorisation de l'innovation pour l'ameublement, qui est au fond un organisme qui est là pour repérer des jeunes designers, parce que j'étais jeune à l'époque. Et donc, à la suite de ça, donc, j'ai fait cette carte blanche. Et cette carte blanche, je voulais travailler sur les nids d'abeilles, chose que je n'avais pas encore abordée dans mon travail. Alors, revenons à nos moutons. Donc, j'ai décidé finalement, m'intéressant aux abeilles, de faire fabriquer au fond des objets par les abeilles. Donc là, tu peux passer. Donc, j'ai fabriqué comme ça des espèces d'épreuves qui ont été mises dans des ruches. Si tu peux passer, à moins que je passe, non ? Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au fond, vous voyez, j'ai mis des épreuves qui sont en cire et qui sont rondes. Et finalement, les abeilles... ont toujours tendance à remonter sur le haut du cadre, puisque une ruche traditionnelle est toujours fabriquée de la même manière, c'est-à-dire que les abeilles s'accrochent au plafond pour descendre, en suivant une courbe à la chaînette, comme ça, qui est assez belle. Donc naturellement, les abeilles ont tendance à raccorder tout sur le haut de la ruche. Alors ce qui est assez amusant, c'est de voir aussi comment les abeilles s'y prennent avec le matériau cire pour fabriquer au fond ce qui va dormir leur habitation ou leur espace de provision. Alors voilà, dans le meilleur des cas, ouais, c'était impeccable. Non, attends, on revient. Donc dans le meilleur des cas, on a obtenu comme ça une espèce de petite chose qui est un objet basique, puisqu'au fond c'est un présentoir ou un centre de table, voilà, un petit plat disons. Et donc là après, je crois qu'il y a un dessin qui résume donc tout le protocole. Donc dans un premier temps, donc j'ai découpé des cires que j'ai mis donc sur des cadres qui ont été disposés dans des ruches. Les abeilles ont travaillé 3-4 jours, j'ai obtenu donc des cires, et ensuite donc ces cires ont été mises coulées comme ça dans du plâtre, et donc après on a fait donc des tirages en argent, on voit après je crois, voilà, donc ça c'est une maquette. Alors, juste une chose, ce qui m'intéressait dans ce projet c'est beaucoup de choses. D'abord, m'intéressant depuis toujours à l'industrie, puisque je suis né de ça, les abeilles m'ont intéressé naturellement parce que c'est une colonie d'ouvrières, on les appelle les ouvrières. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles, d'abord, elles sont non syndiquées, ça c'est important dans le projet, et elles travaillent pendant 3 semaines avant de mourir. C'est-à-dire qu'elles ne se reposent pas, les abeilles ne dorment pas, quoi. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Et puis... comment dire, c'est intéressant aussi de voir comment, au fond, des insectes peuvent créer de la forme. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on peut se poser dans le design. Tu l'as posé un tout petit peu au début. C'est-à-dire, on se pose quand même beaucoup de questions sur le dessin. Faut-il dessiner un objet pour qu'il soit bien dessiné ? En tout cas, moi, je m'intéresse beaucoup à la manière dont on parvient à l'objet, au fond. Moi, je suis passionné par les objets de manière générale, et je me demande souvent en fait comment vient-on à l'objet, comment l'objet est composé. Enfin, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, tu me poseras des questions plus tard. Mais en tout cas, ce premier travail de recherche a abouti aussi sur une horloge que j'appelle Pixel et qui utilise aussi un nid d'abeille, là pour le coup industriel. Alors le nid d'abeille, il est simplement composé d'alvéoles en aluminium et de chaque côté, au fond, il y a une couche de fibres de verre très fine, ce qui fait qu'on a un matériau comme ça qui diffuse la lumière. Alors, il y a une chose qui m'intéressait aussi, c'était d'obtenir un effet assez riche et complexe avec des moyens très simples, car au fond, cette horloge, elle est simplement composée donc d'un tube fluo, d'un mouvement d'horloge qu'on voit un tout petit peu là, d'un mouvement d'horloge, et donc le tube fluo va créer une ombre portée, une ombre chinoise comme ça sur le nid d'abeille. Voilà. Donc ça, c'est un objet qui a été, pas dans cette forme-là, mais qui a été édité à un moment donné chez Ligne Roset. Voilà. Alors, donc, troisième projet, qui est assez, en filiation avec le premier, qui a aussi une réflexion sur le moulage. Alors, pourquoi le moulage? Le moulage, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment le système de reproduction industrielle. Alors, encore une fois, en tant que designer, je trouve intéressant de toujours se questionner sur la manière dont on peut produire les choses. Et là, donc, c'est un travail que j'ai fait avec le CIAV, qui est le Centre International d'Art Verrier, en 2007. Et ils m'ont demandé, finalement, de faire une semaine de recherche autour du décor sur le verre. Alors, vous savez que dans l'histoire du verre, le décor, ça, c'est toujours quelque chose qui a été travaillé depuis je vais dire une ânerie, je pense, historiquement, donc je ne vais pas me prononcer, mais ça fait plusieurs siècles que ça dure. L'Antiquité.
Longtemps.
Voilà, longtemps. Merci. Et alors c'est compliqué parce que finalement, soit le décor, on va le travailler par la forme, soit on va le travailler, on va dire, à froid avec un système de meules et choses comme ça. Et moi, ce que je voulais faire, c'est d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois faire la forme de l'objet et à la fois sa texture et sa surface. Donc j'ai pondu ce truc-là, à la fois pour des raisons économiques et des raisons de temps, puisqu'au fond, j'avais qu'une semaine pour proposer un projet. Et puis la raison économique, c'était qu'au fond, si j'utilisais des moules métalliques, ça allait coûter très cher et évidemment, ça prenait aussi beaucoup de temps. Et donc je me suis vraiment posé la question de la nature du moule. Alors on a fait quelques essais et après une journée de travail, on s'est aperçu qu'avec donc, du pin Douglas, qu'on trouve en abondance dans la région, on est en Alsace, on a fait comme ça un premier moule. Alors le système est très simple, donc la boule de verre arrive en fusion, le moule se referme, et puis donc le souffleur, l'artisan va souffler, tu vas trop vite là.
Pardon.
Le souffleur donc va souffler, le moule est fermé, et donc évidemment le verre est en fusion, il fait 800-900 degrés, le bois n'apprécie absolument pas l'opération, brûle, mais en brûlant il va donc créer un motif de veinage très très fort sur le verre. Alors, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que, évidemment, les artisans ont aussi, comme dans l'industrie, les questions de rentabilité sont des choses qui sont très présentes dans la réflexion qu'on peut avoir dans l'objet. Et là, en l'occurrence, le fait que le verre transmette sa chaleur au bois et que le bois brûle, évidemment, le verre, du coup, perd beaucoup de son énergie. Donc, ce qui fait qu'au fond, les pièces en verre sont tirées assez rapidement. En quelques secondes, on arrive à refroidir le verre du fait que le bois brûle, finalement. Alors, on obtient des séries de 5 à 10 pièces avec le même moule. Et ce qui est curieux, évidemment, c'est que plus le moule brûle et plus la pièce va se déformer et comme ça s'empouler au fur et à mesure des tirages. Voilà. Pardon ? Ah non. Ça, je crois que c'est le dernier projet, il me semble. Non, peut-être pas. Alors ça, c'est un projet sur le lin. Le lin, c'est une plante assez incroyable. C'est une plante qui pousse de 1 mètre en 100 jours. Alors pourquoi le lin ? C'est en 2008, un équipementier automobile, enfin c'est juste avant 2008, c'est en 2007 en réalité, il m'appelle en me disant, voilà, je vois venir la crise, je suis équipementier automobile, l'automobile c'est vraiment le premier secteur qui va souffrir de la crise, et je souhaite trouver de nouveaux secteurs d'investigation. Et il souhaitait faire des meubles. Ok. Alors il me dit, voilà, je travaille pour, fabrique des châssis pour des voitures de course, je fais des capots, des choses comme ça, je maîtrise la fibre de verre, la fibre de carbone, la fibre, je ne sais pas quoi, de Kevlar. Et moi, je reste un peu dubitatif, comme ça, je dis, mais bon, si on veut faire des meubles avec ça, ce n'est pas vraiment adapté à l'habitat, et puis ça va nous coûter cher. Et puis déjà, à l'époque, la Chine consommait quasiment plus de 50% du carbone, donc ça devenait un peu compliqué. Et moi, je propose, comme ça, dans la discussion, je dis, mais pourquoi on n'en profiterait pas pour inventer un nouveau type de composite qui serait beaucoup plus d'origine végétale ? Alors, c'est ce qu'on a fait, on a dit, on va se renseigner chacun de notre côté, sur une fibre qui serait un peu performante. Et on se rappelle 15 jours après, et la fibre en question, c'était le lin. Alors, on revient un tout petit peu en arrière. Alors, donc là, on voit une presse injection, et on a donc commencé à faire des essais avec du lin, mais aussi avec une résine d'origine naturelle, avec des résines à base végétale, donc à base de tournesol. Ce qui s'est passé aussi, pour la petite histoire, c'est comme on est en moment de crise, il y a aussi des choses qui sortent parce que le monde entier cherche des secteurs nouveaux d'application. Donc au fond, il y avait des résines comme ça qu'avaient développé les Américains, qui étaient donc d'origine naturelle, qui étaient dans les tiroirs depuis un certain nombre d'années. Et là, ils se sont dit, on va les sortir parce que effectivement, la crise arrive, il faut vraiment qu'on trouve de nouveaux marchés. Donc on a eu cette opportunité de pouvoir utiliser à ce moment-là ce type de résine. Voilà. Et donc je crois que voilà, donc là on voit bien que là on a vraiment un textile qui va donc passer sous presse juste après. Et voilà la chaise, donc qui est vraiment on peut dire que ceci est une portière automobile finalement, parce que j'utilise vraiment la technique. Vraiment là on est au cœur vraiment de la technique utilisée pour faire la carrosserie automobile en composite. Voilà. Oh là, il y a encore un autre projet. Alors ça, c'est on remonte le temps en fait. Donc là, pour le coup, je crois que c'est vraiment le dernier projet. Ça, oui. C'est aussi une réflexion sur le moulage. Vous avez vu juste avant que, au fond, un moule industriel, c'est un peu une montagne qui enfante une souris, quoi. C'est-à-dire, on a à peu près, je pense, quasiment 100 tonnes de matière qui forment la presse, qui va donc donner lieu à une chaise qui fait, dans le meilleur des cas, entre 1,5 kg et 3 kg. Donc j'ai toujours trouvé qu'en fait, c'était quand même une énorme machinerie pour finalement très peu de choses à la fin. Et donc, j'ai eu cette réflexion, donc là on est en 99, j'ai imaginé au fond que la chaise en elle-même pourrait être son propre moule. Et ça a pu être possible parce que à ce moment-là est sorti ce qu'on appelait des textiles 3D. Alors je suis désolé, c'est un peu technique, mais les textiles 3D, c'est au fond ce qu'on appelle les doubles parois. C'est deux parois de textiles reliées par un réseau très dense de fils. Donc au fond, on utilise ça pour faire des matelas pneumatiques notamment, et quand on gonfle le matelas, il reste parfaitement plan. Donc en jouant avec ce genre de textile, je me suis dit, à l'intérieur, je vais mettre une bonbonne de mousse à l'état liquide, et puis avec un bouton, l'utilisateur pourra, quand il souhaitera, tourner ce bouton, il déclenchera une espèce de mise à feu, Et en secouant la chaise, vas-y, je crois que tu peux montrer. Donc en secouant la chaise, il va donc mélanger les deux composants qui sont donc un polyol et un isocyanate. Hein, c'est des composants polyuréthane. Ensuite, il va donc secouer la chaise, l'émulsion va mousser de plus de 10 fois son volume, et donc gonfler la chaise, et dans un deuxième temps, la mousse va durcir, et la chaise aussi. Donc la chaise qui était dans un premier temps le moule, devient ensuite l'enveloppe de la chaise. Là, je crois que tu dois pouvoir voir. Alors là, je vais montrer quelques essais, parce qu'évidemment, quand on est dans des situations de recherche, évidemment, ça ne marche pas, quoi. Mais le fait que ça ne marche pas, c'est évidemment une indication qu'il y a des difficultés, qu'il va falloir les surmonter, mais aussi plus probablement qu'on est sur une bonne piste, dans le sens où, comment dire, la difficulté pour moi, elle annonce, elle est aussi, il y a une forme de promesse dans ce genre de difficultés. Donc en général, je déprime un peu puisque les protos sont loupés. Mais je continue. Donc ça, c'est vraiment le premier proto qui a tenu. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé du tissu de voile à l'époque. Et puis, on voit tout un tas de petits capitons là. Donc c'est vraiment les fils qui relient les deux parois. Voilà, ça, c'est un modèle loupé. Et voilà, enfin, donc la chaise, une fois gonflée. Donc on est vraiment... Elle est gonflée, elle n'est pas gonflable. Hein. Vous avez bien compris que ce n'est pas de l'air, c'est... C'est un peu irréversible. Je crois que c'est... Ah non, oh là, il y a encore un autre projet. Ok. Mais j'en ai mis plus que 4, là. Ouais, c'est...
Ouais.
Bon, puis en plus, vous ne m'interrompez pas. Là, je suis un peu sûr,
c'est la déclinaison, en fait, ouais. En quelque sorte, avec le...
Alors, effectivement, c'est une déclinaison, mais je dirais métallique, d'une chaise qui s'appelle Bugatti. Je vais passer assez rapidement là-dessus. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, encore un proto-loupé, ce qui est finalement intéressant dans le proto-loupé, je les montre parce que je trouve qu'il y a finalement, les protos ont une espèce d'expressivité qu'on ne retrouve plus ailleurs. Enfin, plus tard, je dirais. Dans le sens où, là, la chaise a craqué, donc on voit la mousse sur le côté. Et on sent vraiment la pression de la mousse qui a gonflé, qui a fait exploser le métal, quoi. Et donc ensuite, tout ça, ça a quand même marché. Là, je crois qu'il y a... Bon, ça, c'est des photos prises en garage. Donc après, oui, la version réussie, donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus propre sur elle et beaucoup plus civilisée. Voilà. Et ensuite, donc ça, ça a été édité chez Capellini et il y a eu toute une collection. Donc de chaises, tabourets, etc. Et alors, un mot juste sur la couleur. La Bugatti, c'est une vieille histoire familiale puisque mon grand-père était chauffeur de maître. Et donc toute mon enfance, j'ai été baigné comme ça d'histoires autour d'automobiles, puisque mon grand-père a conduit des voitures qui étaient magnifiques à l'époque, des Hispano Souza, des voisins, des choses comme ça. Et je me rappelle effectivement quand on allait voir des rallyes où il y avait ces vieilles voitures qui à l'époque tournaient avec des mélanges d'huile de ricin, quoi. Donc mon grand-père, c'était sa Madeleine de Proust, quoi. C'est-à-dire qu'il se mettait à chialer à chaque fois qu'il voyait une Bugatti passer. Et donc je me suis aperçu de ça au fond quand j'ai amené la chaise à faire peindre chez le carrossier. Pour moi, ça a été évident qu'il fallait que je la fasse peindre bleu Bugatti. Et quand Capellini a décidé, donc Capellini qui est un éditeur italien, a décidé de d'éditer, on a utilisé en fait toutes les couleurs de voitures de course. Bugatti, c'était une voiture de course fameuse dans les années 30-35. On a donc utilisé le rouge Ferrari, le jaune Lamborghini et je crois que c'est un noir Fiat. Voilà, je crois que c'est fini. Yes, merci.
Non, pas du tout. Alors, je vous propose que, sans transition, on passe au travail de... Alors, ça, je vais le fermer. Jean-Baptiste Fastret. Et voilà, c'est F5, c'est ça. Hop. Voilà, Jean-Baptiste, si tu me dis deux mots sur ton parcours, comment tu es arrivé au design, et puis ensuite, ensuite on va passer à tes projets.
Alors, donc, moi, je m'appelle Jean-Baptiste Fastret, je suis designer, jeune designer parce que j'ai été diplômé en 2010 de l'ENSI où enseigne François. Et donc depuis ce moment-là, je développe des projets. Au début, ma recherche était sur plutôt des objets qui étaient de l'électroménager, des choses comme ça. Et plus ça va, plus je me diversifie aussi sur du mobilier. Mais je vais y revenir pendant la présentation. J'ai mon parcours, donc j'ai été étudiant à l'ENSI. Après, j'ai été assistant. J'ai fait un stage chez François pendant 6 mois pendant mes études, où sûrement j'ai été sensibilisé à son approche des matériaux et son amour des matériaux, ce qui sûrement aujourd'hui a une, sans aucun doute, une impact sur mon travail. Et ensuite, j'ai travaillé à la fin de mes études et après mon diplôme pour les frères Broulet, qui sont des designers qui font principalement du mobilier. Et là, j'ai aussi été sensibilisé à l'amour du dessin, des objets, et aussi du détail et de la précision dans le mobilier. Voilà. Donc, moi, mon approche de la matière, elle se traduit souvent par un jeu de transfert. Enfin, moi, que j'essaye de faire, que je fais souvent dans mes projets, c'est-à-dire que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de projets que je trouvais intéressants qui étaient simplement une question de transfert, c'est-à-dire il y a une technologie qui existe dans un monde comme par exemple les portières de voiture qu'expliquait François. Il y a une technologie qui permet de faire des portières de voiture, et avec cette technologie, c'est génial, on peut faire des chaises à partir de lin, quoi. Et souvent, moi je trouve très intéressant quand ces transferts peuvent amener des choses supplémentaires aux objets, quoi. Donc par exemple sur ce projet qui est mon projet de diplôme, qui est un projet de recherche qui n'a pas été édité mais qui m'a servi à bâtir ma réflexion, j'ai fait des bouilloires électriques qui étaient fabriquées en partie par des artisans et en partie industriellement. C'est-à-dire qu'on voit toutes les parties qui sont grises sont des éléments industriels. Donc j'ai en fait conçu une bouilloire incomplète. Et après j'ai confié la réalisation de contenants à des artisans. C'est-à-dire que je suis parti du constat qu'en fait une bouilloire électrique, c'est un vase dans lequel on met un truc qui chauffe, et à la fin ça donne de l'eau chaude. Donc je me suis dit, mais pourquoi on pourrait pas faire des bouilloires électriques par les gens qui fabriquent habituellement des vases? C'est ce genre de réflexion qui m'intéresse. Et du coup, ça met l'objet dans un autre champ, dans une autre histoire, quoi. Donc ici, l'histoire des arts de la table, c'est-à-dire que la bouilloire électrique, habituellement, on l'utilise comme un outil domestique, mais en la faisant faire par un artisan, d'un seul coup, elle sort de son état d'outil et elle devient quelque chose propre aux arts de la table. Alors ensuite, donc moi j'ai plusieurs projets, mais j'en ai peut-être trop, je me rends compte par rapport à François, mais je vais aller assez vite. Après, ça amène aussi une question sur le prototypage rapide et sur l'impression 3D, où justement j'avais fait un lien sur cette question du prototypage rapide qui sert à faire surtout aujourd'hui des maquettes.
Peut-être 2 mots sur le prototypage
rapide. Oui, alors le prototypage rapide, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup en ce moment dans les médias en ce moment sous le nom d'impression 3D. Qui est une notion plutôt à la mode dans la réflexion contemporaine sur le design et sur l'industrie en général, c'est-à-dire des machines qui vont imprimer comme on imprime un document sur une feuille. Là, on va imprimer des objets, c'est-à-dire qu'un ordinateur va y avoir un fichier qui va créer un objet en 3D selon ce fichier. C'est-à-dire que si à chaque fois j'ai un fichier qui est différent, j'ai un objet qui en face est différent. Donc c'est l'industrie qui se libère de la contrainte du moule, et c'est ça qui est passionnant. Donc c'est en fait le principe de l'industrie, c'est l'objet fait en série. Il y a un moule et qui suite à ce moule, on produit plein d'objets qui sont identiques. C'est le principe de l'industrie. Et là, oui. Et là, ce qui est fort, c'est que on peut avec une machine produire un objet qui suit des règles. Mais ces règles peuvent changer à chaque fois, et donc on a un objet qui est produit aussi en série, mais qui à chaque fois est différent. Et donc c'est une technique qui est un peu à la frontière entre les capacités de l'industrie et les capacités de l'artisanat à générer des objets qui sont à chaque fois uniques.
Oui. Non, je voulais juste... Alors, je ne sais pas si on passionne les gens avec nos histoires techniques. En tout cas, nous, ça nous passionne, mais ce qu'on peut dire comme ça, quand on voit de loin l'histoire de prototypage rapide ou d'impression 3D, finalement, c'est on prend de la matière, on l'accumule comme ça, jusqu'à créer un objet. Et moi, ça m'a toujours fait penser, au fond, au bâtiment traditionnel. C'est-à-dire que ce bâtiment, il est exactement construit comme ça. C'est-à-dire qu'on a pris des pierres et on les a empilées, quoi. Et pour moi, on parle exactement de la même chose, peut-être avec des moyens un peu différents, avec un thermoplastique ou des choses comme ça. Mais ça m'a toujours fait un peu sourire, cette espèce d'histoire de technologie super nouvelle ou tout ça, alors qu'en réalité, ces techniques, elles sont utilisées depuis très très longtemps. Je pense que les pyramides ont été fabriquées comme ça, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a un truc qui est assez amusant dans certaines fabrications d'objets 3D, c'est qu'ils sont réalisés, par exemple, on a un bac de résine, et il y a des faisceaux laser qui, de proche en proche, vont polymériser la résine, et donc, à la fin, on obtient une pièce qui est dans un bain de résine, quoi. Donc on a une résine qui est polymérisée, c'est-à-dire durcie, dans un bain de résine. C'est exactement ce qui s'est produit avec les pyramides, puisqu'au fond, les pyramides, au fur et à mesure, elles étaient ensablées, puis ensuite désensablées. Quoi. Donc on parle quasiment de la même chose, avec des moyens évidemment technologiques très différents.
Oui, tout à fait. En fait, on n'invente rien de nouveau, parce que même, par exemple, ici, sur cette... technique d'impression 3D, qui est une technique en dépôt de fil, en fait, c'est comme le colombin de quand on monte la terre, en fait, c'est une buse qui vient mettre comme un petit boudin, en fait, et qui va comme monter, comme on montrait, comme un potier montrait de la terre, en fait. Donc c'est... Mais après, là, ce qui est aussi différent, c'est que vu qu'il n'y a pas de moule, il n'y a pas les contraintes de moule, c'est-à-dire qu'aussi avec le moule, on a l'histoire du démoulage, du château de sable, où par exemple, si le château de sable, il a une forme, on fait un pâté de sable, ça a une forme comme ça, pour qu'on puisse le démouler. Là, ça permet de faire une bouilloire en plastique, parce que c'est de l'ABS, c'est un plastique qui sert à faire des bouilloires habituellement, mais qui a cette forme avec des plumes, c'est pour ça que je l'ai voulu très expressif, pour montrer justement l'objet qui se libère du moule. Bon, après, je vais passer ça, mais hop, bon, ça c'est un... Après, j'ai poursuivi sur un autre projet, cette recherche de l'impression 3D dans l'univers domestique et de faire des... Donc ici, j'ai fait une passoire, donc comme on peut le voir. Toujours sur cette histoire d'hybridation entre un objet artisanal et une pièce industrielle, j'ai poursuivi les bouilloires avec une collection de sèche-cheveux que j'ai appelée sèche-cheveux Tomahawk, qui en fait sont toujours un électroménager incomplet qui est complété par une pièce faite à la main. Donc ici, par exemple, on avait ce chauffant qui était une pièce industrielle et qui sur lequel je venais visser à chaque fois. Donc là, j'en ai deux exemples, mais ça permettait d'avoir une prise en main différente, une esthétique différente, et ça réfléchissait toujours sur cette notion-là. Cette notion d'hybridation entre pièces techniques et pièces artisanales, je l'ai ensuite développé sur d'autres projets, et toujours aussi dans cette idée d'essayer d'aller chercher une technologie, une technique, quelque chose qui vient d'un monde, et essayer de le confronter avec les arts décoratifs ou avec une technique artisanale, et voir ce que ça donne. Par exemple, là, j'utilise... donc c'est un vase que j'ai appelé vase carabée, qui... donc la face avant, elle est faite en plastique, elle est fabriquée par un fabricant de masques de ski, qui mettent un revêtement irisé couleur un peu scarabée, comme on peut voir sur les masques de ski. Et l'idée, c'est de le reprendre, et cette finition, qui est habituellement une finition très sportive et technique, de la détourner et de la voir un peu d'un autre angle, et de se dire en fait ça pourrait évoquer quelque chose d'autre. Donc là, on voit comment c'est fabriqué, et encore une fois, il y a cette idée de mélanger. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est assez clair.
Bon, ça, c'est un...
Donc voilà, ça c'est un autre projet qui parle aussi de un peu de cette question-là. Donc là, c'est un projet qui avait fait pour la galerie Créo, qui est une galerie qui fait du mobilier en série limitée. Donc là aussi, j'ai voulu détourner quelque chose qui vient du monde de la lunetterie. J'ai réalisé qu'il y avait on porte tous des lunettes imitation cornes, écailles sur le nez, mais on ne sait jamais vraiment comment c'est fait cette imitation corne. Est-ce que c'est, ça m'a posé beaucoup de questions parce que je portais des lunettes d'ailleurs avant, maintenant je porte des lentilles, mais voilà. Et j'ai réalisé que en fait ces lunettes imitation corne ou écailles étaient taillées dans des plaques. Qui imitaient la corne ou l'écaille, mais qui étaient des immenses plaques. Là, on voit immenses, des grandes plaques, grandes comme des portes. Donc, je trouvais ça assez cocasse, cette espèce de tortue au mètre qui était vendue. C'était de la tortue industrielle ou du bison industriel, comme ça. Je trouvais ça assez, assez étrange et que c'était une matière qui était à la fois comme perdue entre quelque chose de primitif et quelque chose d'hyper technologique. Et justement, à partir de ça, j'ai décidé de détourner ces plaques et de les utiliser en tant que telles comme un matériau, en essayant de sortir de ma tête l'idée de la lunetterie et quand même la garder un peu parce que j'ai fait une collection donc de miroirs qui servent de ces plaques en acétate comme d'un cadre. Et voilà, donc ce qui est assez étonnant, c'est que quand on voit les miroirs, on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la matière, on ne sait pas d'où vient cette matière. Et plein de fois, j'ai vu des gens regarder les miroirs avec des matières imitation, avec des lunettes en écaille, et dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. » Alors qu'en fait, ils l'ont sur le nez toute la journée. Donc en fait, c'est vraiment le fait de juste sortir un matériau de ce contexte, ça permet de raconter une histoire et ça permet de créer quelque chose de surprenant. Bon, suite à ça, après, j'ai développé aussi des pièces en mobilier aussi, toujours en acétate, où là l'idée c'était de vraiment essayer de pousser ce projet dans ses retranchements et essayer de grandir à chaque fois la pièce d'acétate. Là c'est une autre pièce où on voit en fait, pour montrer comment ça peut se passer un projet de design, c'est une étagère que j'ai fait pour une exposition où j'avais vu dans c'était après le projet en acétate, je regardais Top Chef à la télé et j'avais vu dans les moments où le cuistot il fait une démonstration, Jean-François Piège là, il faisait une démonstration de comment il fait sa cuisine lui, il avait une planche à découper qui était en imitation marbre, c'est en plastique imitation marbre, et je la trouvais très très belle. Je me suis rendu compte que c'était assez compliqué en fait de trouver le matériau, et quand j'ai eu l'opportunité de cette expo, je suis allé dans une boutique spécialisée pour les cuisiniers, j'ai acheté des plaques à découper et j'en ai fait des équerres pour les étagères. Donc du coup voilà, c'était aussi là je suis carrément allé détourner au lieu d'intervenir au moment chez le fabricant, je suis carrément allé dans la boutique pour adapter voilà, une pièce et le changer de son truc. Je sais pas si je suis trop long.
Non, ça va. Mais
fait... couper du saucisson.
Ouais, voilà. Mais voilà.
Je pense qu'on peut finir sur le verre, le cirva aussi. En fait.
Alors, finissons sur le verre. Alors, je sais pas si on voit. Alors, voilà. Ça, c'est une autre pièce que j'ai fait où là, on me demandait de dessiner. Un vase pour le Cirva, qui est donc une manufacture de verre à Marseille. Et donc j'étais paniqué par l'idée de faire un vase, étant donné qu'il y a 1000 vases qui ont été faits dans l'histoire du design, dans l'histoire du verre, dont parlait François tout à l'heure, qui est très longue. Et donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de partir de quelque chose qui est complètement en dehors du monde du verre, une matière qui est complètement en dehors du monde de verre, et pour essayer de construire mon projet. Donc je suis parti de ces vis qu'on peut voir là sur l'image, qui sont des vis qui servent pour les toilettes, accrocher les lunettes de WC, donc en nylon. Et je me suis dit, ça m'intéressait de partir de quelque chose de très trivial comme ça, quelque chose qu'on peut acheter dans un magasin de bricolage, et qui est une matière plastique voilà, qui sert un truc technique hyper trivial, et de l'anoblir en essayant de centrer le projet d'art verrier autour de ça. Donc j'ai construit ce vase articulé. Et ce qui était intéressant avec ces vis en plastique, c'est que contrairement à des vis en métal, elles permettaient de visser du verre sur du verre. Et le travail, du coup, en fait, j'ai fait un travail à l'envers avec le cirevase, c'est-à-dire au lieu d'essayer de cacher les vis, on a essayé de faire du verre qui avait l'apparence du plastique de ces vis du bricolage. Et là où le pari était gagné, c'est au moment de l'exposition où les gens nous disaient « Mais comment vous avez fait pour faire des vis en verre ?» Et du coup là, on était contents, quoi. Parce qu'il y avait justement toujours cette histoire de brouiller les pistes et de se dire et de changer le contexte. Et vu qu'on est dans une exposition, vu que c'est un vase, les gens qui voient ça, ils se disent pas c'est une vis en plastique, ils se disent qu'elle est forcément en verre, et c'est ça qui est intéressant.
Voilà. Alors, avant de voir si vous avez des questions et voir s'ils ont aussi des questions à se poser l'un l'autre, moi je pense qu'il y a, on peut retenir en fait deux choses très simples. Il y a cet aspect du détournement qui est assez systématique en fait chez vous. En fait, il y a cette envie de prendre une technique, une matière, un matériau et de le transposer ailleurs, de l'emmener ailleurs. Et aussi ce rapport en fait nature-culture, en fait finalement un meuble, après tout une table en bois, c'est à la fois le souvenir de l'arbre dans lequel il a été taillé et un objet totalement nouveau et différent. Et donc il y a comme une sorte de transposition dans l'un et l'autre. Alors j'avais demandé en fait à l'un et à l'autre savoir quelles questions ils voulaient se poser. Et je pense qu'on va commencer par François.
Une question
à poser à Jean-Baptiste.
J'ai rien préparé en fait. non, je peux simplement dire un peu de bien, quoi, peut-être. Non, mais je trouve que le parcours de Jean-Baptiste, il est remarquable dans le sens où justement tu pars de ben justement de la technique. En fait, c'est assez rare, ça, je trouve, aujourd'hui. On a plus des étudiants, je résume vraiment les choses, hein, mais qui peuvent être extrêmement attirés par le dessin, par exemple. Et là, au fond, ton approche, elle produit de l'expression et du dessin, mais par aussi des constats qui sont liés à des regards qu'on peut porter sur l'industrie ou sur des techniques, comme tu disais au début, sur l'impression 3D.
Jean-Baptiste.
Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Parce que tu fais beaucoup de mobilier. Quel serait ton projet de rêve que tu voudrais faire? Est-ce que tu voudrais faire une fusée en lin? Est-ce que tu voudrais faire Est-ce qu'au lieu de faire par exemple des chaises en lin avec des machines qui servent à faire des portières de voiture, tu voudrais pas carrément faire une voiture en lin? Est-ce que ça t'intéresse je sais pas si c'est une bonne question.
La question est, est-ce que le designer va sauver le monde en fait? S'il réfléchit un petit peu à comment on utilise les matériaux qui s'épuisent et qui ne se renouvellent plus que difficilement, est-ce que le designer va sauver le monde?
Non, alors, j'essaie de vaguement répondre, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans le métier tel que je le pratique aujourd'hui, c'est qu'au fond, on peut aller sur des situations innovantes avec des moyens très faibles. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans une chaise, c'est qu'au fond, on peut en fabriquer une sur une table. C'est-à-dire qu'on a des moyens, on n'a pas besoin de grands moyens pour faire bouger les lignes, parce que évidemment quand j'ai fait la chaise PAC, pour moi c'était la chaise était plus un démonstrateur qu'un objet. C'était plus l'idée était de démontrer qu'on pourrait faire des objets sans moule. En plus, on est relativement proche de l'industrie du textile, puisqu'on est en textile, et du coup On peut aussi être dans des situations de mode, de collection, avec des histoires de couleurs et choses comme ça. Donc là, est-ce que je fais du design? Je ne sais pas, puisqu'au fond, là, je me situe plus en tant qu'inventeur de procédés de fabrication. Et pour répondre à ta question, je pense que non, le design, il ne saura rien du tout. Mais par contre, je pense que la question de sauvegarde, je pense qu'elle est, elle est extraordinairement technique aujourd'hui et très complexe. Évidemment, nous, designers, on entame une tranche très très faible du problème. Donc, voilà. Par exemple, quand on travaille avec un éditeur, on ne va pas fouiller dans ses papiers pour savoir qui sont ses fournisseurs, si le bois vient vraiment de France ou je ne sais pas quoi, ou s'il a transité. On ne peut absolument pas faire ça. Donc, moi, la parade que j'ai toujours eue par rapport à ça, moi, je ne m'estime pas être un écolo, mais je suis plutôt un économe, quoi. Dans le sens où, pour moi, si on peut, j'ai jamais compris, par exemple, et toute une partie de mon travail se situe là-dedans, j'ai jamais compris pourquoi les chaises font 4-5 kilos alors qu'elles pourraient faire 1 ou 2 kilos. Et ça, je trouve que si on a une relation comme ça d'économie et d'intelligence par rapport aux procédés, aux matériaux, c'est déjà un geste qui est appréciable.
Voilà, oui, mais je pense que je pourrais simplement conclure en disant que effectivement le design, si on a encore même du mal aujourd'hui à le définir, c'est parce que c'est un mot qui n'existe que depuis les années 30 aux États-Unis, qui définit assez mal en fait finalement, qui recouvre assez mal ce que font des gens comme François ou Jean-Baptiste, et qui justement réinventent constamment les processus et les procédés. Et les mettre en question. Et donc l'idée, c'est effectivement, on ne peut être que surpris par les résultats, et c'est ce qu'on espère, c'est que c'est justement que le design n'est pas encore figé, qu'il n'est pas encore arrêté, que ces chaises blanches là sur lesquelles vous êtes arrêté, qui est pourtant expriment 50 ans de recherche de procédés, voilà, de moulage, le tube plié, etc. Non, on peut peut-être estimer qu'on peut aller encore plus loin et sortir encore de cette ornière et être, oui, encore surpris par des nouveaux matériaux, procédés, c'est ce qu'on espère de types comme eux. Voilà. On vous remercie.